Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous une nouvelle fois pour l'émission Crème de la Crème. On est ensemble pendant une heure, comme tous les jours du lundi au vendredi, 18h, 19h, sur Canal B, rediffusion du mardi au samedi matin de 9h à 10h. Et puis, fin de semaine, fin de Crème de la Crème avant une pause estivale qui laissera la place à l'émission de Boule Vanille, dans laquelle j'apparaîtrai de temps en temps, mais qui, elle, sera programmée de 17h à 18h du lundi au vendredi. Une émission Crème de la Crème qui vous proposera, puisque c'est mercredi, une chronique littéraire par Soisig Le Bail, la dernière de la saison, la chronique Allez en ligne numéro 49, où elle nous parlera du roman De larmes et d'écume, roman jeunesse de Stéphane Michaka, paru aux éditions PKJ. Avant ça, vous aurez entendu Clarisse Calvo-Pinsol, artiste qui vous propose l'œuvre intitulée Enoé, à voir pendant quelques semaines au Théâtre du Vieux Saint-Étienne dans le cadre de l'exposition collective Muable proposée par le festival maintenant par l'association Electronica. Et puis avant ça, on retrouvera nos deux compères Eric Gouzanet et Antonin Moreau du cinéma L'Arvor pour la chronique Un fauteuil pour deux, dans laquelle ils nous parleront notamment des cycles estivaux Vamos a la Playa et Plouf en juillet et en août à L'Arvor. Place à regagner sur canalb.fr. On commence Crème de la Crème directement avec une nouveauté brûlante annonçant un album à venir, lui, à la fin du mois de septembre pour les Howling Joes, qui deviennent de plus en plus psychédéliques à travers un album qui s'annonce fameux, puisque déjà réalisé par Liam Watson, qu'on connaît bien ici à Rennes, parce que, bon, comme tout le monde, dans le monde entier, je veux dire, il a produit les White Stripes, mais aussi c'est là qu'on a enregistré les Rennais des Gloomies, des Smoky Fields et autres bogeymen qu'on connaît un peu dans la région. Voilà, on écoute ce premier titre Mirror, extrait de l'album à venir, donc en septembre, pour les Howling Joes. Bonne émission.
Yeah. comité d'organisation de l'industrie cinématographique vous demande de ne pas fumer afin de ne pas obscurcir l'atmosphère. Ne vous plaignez pas, la projection sera plus claire et vous ferez ainsi des économies forcées sur votre ration. Enfin, vous serez galant, pensez à vos voisines. Madame, rappelez-vous qu'il est interdit d'amener au cinéma des enfants de moins de 3 ans. En cas d'alerte, suivez les conseils de la direction. Amis de l'écran, merci.
Et les amis de l'écran, eh bien, ils sont là, comme assez souvent sur Canal B. Merci à vous deux, Eric Gouzanet et Antoine Amoureux du cinéma Arvor, qui venaient en voisin presque.
Tout à fait. On a la voie à traverser.
Alors, on va vous recevoir à nouveau pour cette séquence un fauteuil pour deux qui avait un peu disparu depuis le mois d'avril.
C'était mis en veille.
C'est ça. On va revenir aux bonnes habitudes et on va en proposer une version. Élargi aujourd'hui sans doute, puisque vous allez nous parler de quelques films plus ou moins récents, mais surtout de deux cycles de cinéma à voir à l'Arvor au frais, dans une salle de cinéma. C'est l'endroit idéal. Il y a l'église sinon, mais je crois que le cinéma c'est un peu plus cool quand même. Plouf, me direz-vous, ou Allons à la plage, mais en espagnol parce que c'est plus exotique.
C'est plus vendeur.
Et c'est plus vendeur tout de suite. Et puis en plus, si jamais il y a un quart de madrilène qui arrive par là, hop.
Ah, on les chope direct.
Ça arrive. Hein.
Ça peut arriver. Le cinéma Arvor nous propose évidemment de nombreuses nouveautés sur ses écrans, les 5 écrans, hein, vous le savez, 5 écrans à l'Arvor. Mais aussi aime bien aller vers quelques films de patrimoine, films oubliés, films classiques, films à voir en salle. Donc, comment vous l'avez fait cette sélection et cette envie d'aller d'abord plonger et puis ensuite à la plage? C'était à peu près évident parce que c'est l'été.
Ouais, après le c'est presque un hasard qu'il y ait un cycle autour de la mer et un cycle autour de la plage. On avait lancé ça un peu l'année dernière, en tout cas pour avoir l'idée de mettre deux cycles, un cycle plutôt orienté jeunesse qui est donc celui orienté autour de la mer, donc qui s'appelle Plouf, et un cycle normal adulte qui lui est centré plutôt autour de la plage et dont je me suis occupé plus particulièrement. Et ma collègue qui est plutôt jeune public à l'Arvor, Servan, elle travaillait de son côté autour du motif de la mer, donc c'est génial, voilà, ça tombe trop bien.
Et ça tombe trop bien parce qu'on va plonger directement dans le vif de ces programmations-là. Eric, toi tu nous parleras eh bien, d'un film que tu as pu voir au Festival de Cannes il y a quelques semaines. Ça fait un peu plus d'un mois, mais bon, pas beaucoup plus.
Enfin, ça fait peut-être 30 ans que j'y vais, donc c'est peut-être pour ça.
C'est ça. Alors, c'est un film d'un Italien bien connu.
Danny Moretti.
Qui a gagné la Palme d'Or, il me semble.
Il a gagné la Palme d'Or, tout à fait, pour La Chambre du Fils.
D'accord. Voilà. Bon, on verra s'il est plus joyeux que celui-ci ou quoi.
Moretti n'est pas forcément joyeux.
Pas toujours. On commence directement, avant de parler d'Italie, eh bien, avec ceci.
Mais vous allez la fermer !
Bon, c'était quoi ? C'était forcément des choses qui se passent dans l'eau, ça, hein, je pense.
C'était Le Monde de Nemo. Le Monde de Nemo, qui est un des grands classiques quoi, du studio Pixar, un film d'Andrew Stanton et de Lee Unkrich, et qui est vraiment, avec lequel, du coup, on va ouvrir ce cycle Plouf. Moi, ça va être un vrai plaisir, je pense, d'aller le revoir en salle. Voilà, je trouve que c'est vraiment une des très grandes réussites de Pixar. C'est évidemment un film hyper connu, mais qui n'est pas repassé au cinéma depuis quelques temps, et je pense que c'est vraiment un film à voir en salle. C'est un film qui n'a pas vraiment pris une ride. C'est évidemment, comme vous le savez, des films en images de synthèse. Je trouve que la représentation des océans dans ce film là, elle est toujours absolument parfaite. Et puis le récit est génial comme d'habitude chez Pixar. C'est aussi une sorte d'ode à la liberté. Je me rappelle qu'à l'époque quand c'était sorti, je me suis dit c'est super, alors que tout le monde c'est en train de se scléroser, en train de dire voilà l'insécurité et compagnie. Là voilà, c'était un film justement sur un papa qui devait lâcher prise et dire à son fils allez vas-y, vis ta vie, c'est super, il y aura des dangers, tu vas croiser des requins et tout ça, mais ça va être super.
À conseiller aussi peut-être aux parents qui auront envie de peut-être un peu trop enfermer leur progéniture.
Ouais, c'est un film qui, comme souvent chez les Pixar, il y a des petits moments où ça peut foutre les jetons et tout ça, et je trouve que ça manque pas mal dans les films d'animation contemporains qui sont souvent, qui sont parfois en tout cas assez aseptisés et qui n'osent pas, des fois, montrer des choses qui font peur. Et je pense que la vision du plongeur, ça a l'air de rien, l'arrivée du plongeur quand Nemo se fait embarquer, c'est quelque chose qui a marqué, moi mon fils en l'occurrence, ça l'a marqué. Il a même voulu devenir plongeur pour conjurer sa peur, et heureusement il a arrêté. Mais voilà, c'est une image qui est marquante, et je pense que voilà, c'est aussi le problème des grands metteurs en scène, ils savent qu'à des moments il faut faire peur, il faut traumatiser un petit peu.
Plouf, ouverture avec le monde de Nemo, donc ce sera dans deux semaines, le 13 juillet. Vous retrouverez eh bien, aussi d'autres films jeunesse iodés tout au long de cette sélection là. Alors il n'y aura pas que des films pour les tout petits non plus dans le cycle Plouf.
Non, pas du tout, parce que là si on est vraiment sur le cycle Plouf, plutôt à partir de 7 ans sur certains films, et à partir de 10 pour d'autres, parce qu'on va aussi passer Les Dents de la Mer en version française. On est content parce que la version française originale Les Dents de la Mer, elle est très très bien, et on estime que oui, c'est un film qu'on peut voir. Alors ça, c'est la discrétion des parents, mais il n'y a aucune interdiction sur le film. Voilà, on peut peut-être le voir, ça dépend des enfants et tout ça, peut-être dès 8 ans ou dès 10 ans, je ne sais pas. Et ça, voilà, c'est des grands classiques, hein, que ce soit Nemo ou Jaws, mais on va aller sur des films un petit peu moins identifiés, hein. Je pense au film qui va suivre après Nemo, qui est Le Cyclone à la Jamaïque d'Alexander McKendrick, qui est un film absolument exceptionnel avec aide-moi Yann là, c'est avec Anthony Quinn et James Coburn. Et ça, c'est un récit d'initiation à un film sur l'enfance, d'un point de vue enfantin, sur des enfants qui sont pris kidnappés par des sortes de pirates. C'est un film vraiment absolument lumineux et vraiment génial, et qui n'est pas si connu que ça, et qui est un vrai régal.
On va continuer à en parler, hein, à travers le cycle Plouf, le cycle Vamos a la Playa. Continue à parler de cette programmation à l'Arvor cet été, et puis de nouveau aussi avec Eric dans un instant. Ce sera l'occasion peut-être de chanter tous en chœur après une projection des Dents de la Mer, je pense.
Well, in the duty of fair Spanish lady, farewell, in the duty of ladies of Spain. Show me the way to go home. I'm tired and I wanna go to bed. I had a little drink about an hour ago, and it's got right to my head. Wherever I may roam, by land or sea or foam,
il y a plusieurs façons, hein, d'évoquer en musique le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Il y avait celle qu'on entendait là, quelques marins un peu dangereux, en tout cas un peu fous, je crois, pour certains d'entre eux, qui aiment bien un peu picoler quand même, et qui chantent des chansons de marins, normal, mais en anglais. Alors on verra si dans la version française projetée à l'Arvor dans le cadre du cycle Plouf, ce sera le 3 août, eh bien, on a gardé la version originale. Ça arrive.
Je me rappelle plus.
Ça arrive. Ça arrive. En tout cas, là, ce qui va suivre, pour faire une petite transition et nous diriger vers Nanni Moretti et vers Eric Gouzanet, donc, une étonnante relecture du thème de Jaws, à l'origine de John Williams, le compositeur attitré de Spielberg. Celle-là, c'est un autre monstre sacré de la BO du cinéma.
Ouais, c'est Lalo Schifrin, et je crois que ouais, John Williams avait d'ailleurs commencé comme arrangeur ou musicien pour Lalo Schifrin, me semble-t-il. Mais c'est toi le spécialiste, Yann. Mais je crois qu'en tout cas, voilà, la relecture par Lalo Schifrin du thème de Jaws, elle est pas mal du tout. We'll be right back.
Vous l'aurez reconnu peut-être ou pas, il y a quelque part un requin qui nous guette et qui nous menace. Il était présent aussi dans cette version du thème de Jaws, Les Dents de la Mer, par Lalo Schifri. On revient à un cinéma contemporain avec cette fois Eric Gouzanet, toujours de l'Arvor. Hein, t'as pas changé de crèmerie depuis
non,
tout à l'heure.
Non, toujours à l'Arvor, avec plaisir, avec joie, avec mon collègue Antonin. On y reste.
Pour nous parler d'un film qui, lui, est en sortie du mercredi 28 juin.
Ouais.
Un film de Nanni Moretti, tu l'as vu où et comment?
Alors, je ne l'ai pas vu à Cannes, mais récemment, lors des rencontres cinématographiques à Dinard, qui est donc des rencontres proposées par une association, La Règle du Jeu. Donc, son 16e film, long métrage, bien sûr, qui était présenté donc en compétition officielle, qui est passé un peu inaperçu, ni prix, ni quoi que ce soit. Enfin, les retours étaient quand même assez bons sur Cannes. On parle de film crépusculaire, voilà, Nanni Moretti est un réalisateur pas tout jeune qui a cette particularité quand même de ne pas avoir été broyé par la machine berlusconienne. C'est tout à son honneur parce que l'autre, il l'a bien quand même épongé, ce cinéma italien qu'on connaissait dans les années 70-80. Donc il est passé un peu à travers. 9 films en compétition. Son deuxième film, Ecce Homo, était présenté. C'est encore un film sur le cinéma. Voilà, comme Spielberg, comme Chazelle. Il parle de cinéma, un tournage de film. Donc en version dépressive, Nanni Moretti, a des idées noires, mais il veut quand même nous faire aimer le cinéma. Le cinéma, comme il le dit, il le clame, il le plébiscite sur grand écran avant tout. Donc il a convoqué ses acteurs fétiches, Silvio Orlando, Margarita Bui, et puis il nous emmène Rome aussi, étant son lieu toujours de tournage, puisqu'il tient une salle aussi, Moretti, il est aussi exploitant, à la fois cinéaste, mais aussi exploitant en plein Rome, sa salle.
Ce qui lui fait un point commun avec Jean-Pierre Mocky, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup d'autres.
On peut voir ça comme ça. Mais allez-y, cette salle mérite découverte. Et d'ailleurs, Kiarostami avait fait un excellent court-métrage sur sa salle, donc comment animer une salle. Donc voilà, pour revenir au film, c'est un film qui démarre dans les années 50. Moretti devait être proche du PC de l'époque, les communistes qui envahissent la Hongrie, c'est un peu son point de départ. Et donc là, il nous fait évoluer. Il évolue aussi dans les techniques, parce que si vous vous souvenez de Caro Diaro, Journal Intime, où il était en Vespa, aujourd'hui, aujourd'hui il est en
trottinette.
Un peu plus court, le voyage est assez court, mais magnifique. Voilà. Que dire du film? Moi, j'ai passé un bon moment, je vous invite à y aller. Vous allez découvrir comment on fabrique son film, c'est vrai qu'autour de lui il a des personnages, sa femme qui a envie de le quitter, sa fille qui a trouvé amour auprès d'un soixantenaire, son producteur qui est joué par le français Amalric aussi, qui est un peu véreux. Donc voilà, tout un coup autour de lui ça ne va pas non plus comme lui ça ne va pas.
Vous irez peut-être voir ce film de Nanni Moretti à l'Arvor. Retrouvez tous les horaires de séance sur le site cinéma-arvor.fr.
On peut signaler que d'ailleurs, ça sera la fête du cinéma. Attention,
dimanche à mercredi prochain. Reparler,
C'est toujours le même principe. On paye quelques tickets et puis on va voir 12 000 films en quelques jours.
Non, ça a bien changé. C'est plus à ses débuts. Oui, on payait donc une place de cinéma et après on avait le droit à un passeport et on payait 1 franc.
Ouais.
Puisque donc la fête du cinéma
c'était 10 francs je crois, après ça a été 1 euro mais c'était 10 francs quand c'était en francs,
donc ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe.
Oui, puisque ça a commencé en 85 et l'inflation aujourd'hui c'est 5 balles tout à 5 balles pendant 4 jours de dimanche jusqu'à mercredi. Donc on aura notre programmation qui sortira demain. Les films en sortie et toujours les films à l'affiche, mais bon il manque aussi mais aussi habitué aussi à avoir proposé différents événements. Donc là, on en a un par jour. Commence dimanche.
Dimanche avec Aoso, un film culte japonais, psychotronique japonais des années 76, un truc complètement dingue, qui fait bien saigner des yeux, bien comme il faut. C'est à 18h dimanche. Passe également une avant-première du nouveau film de Paul Schrader. Mardi, on a Les Algues Vertes. Et mercredi, on a Interstellar de Christopher Nolan.
On va écouter un extrait d'un film que vous allez reconnaître probablement si vous êtes des férus participants au blind test de l'émission bien connue de Canal B, Le Cinéma est mort, parce que je ne doute pas que vous l'avez déjà utilisé cet extrait, mon cher Antonin. Là, c'est pour évoquer eh bien, l'ouverture du cycle Vamos a la Playa. Oh, 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 comme on dit dans la chanson, évidemment.
Mais tu fais comme si c'était rien passé.
Détends-toi, Nathaniel.
Ah, ne me dis pas de me détendre, Buddy. C'est un agent fédéral, ton Johnny.
J'aurais dû l'aligner quand j'en avais l'occasion.
Je vais m'en occuper de votre flic.
Non, Rosie. Vous vous rendez compte qu'on a attaqué 30 banques en 3 ans sans que personne puisse nous toucher? Ce sont les enjeux qui sont plus élevés, c'est tout.
Mais les enjeux, on les emmerde, Buddy. Y'a que toi que ça amuse, tout ce bordel. Ce qui se passe, c'est pas un jeu. On est sérieusement dans la merde. Et moi, j'ai peur, tu comprends? Alors je dis qu'il faut foutre le camp maintenant, ce soir, ok?
Si tu cavales, tu meurs.
Réfléchissez un peu. Ce qu'on a fait, c'était pas pour le fric. C'était une bataille entre nous et le système. Pour montrer comment ce système tue l'esprit humain. C'est ça qu'on représente. On montre à tous ces cadavres qui s'entassent pare-choc contre pare-choc au péage dans leur cercueil en métal que l'esprit humain est encore en vie.
Eh oui, vous l'avez reconnu, ce film, et je vais laisser Antonin peut-être nous en parler de ce film qui ouvrira Vamos a la Playa, qui sera un cycle très disparate, je pourrais dire. Bon, éclectique, on va dire ça comme ça. Évidemment, on ira dans le cinéma d'auteur, dans le cinéma de divertissement pur, et puis à la croisée des deux extrémités.
Oui, oui, c'est un peu le principe hein, de ces cycles-là qu'on fait depuis 4 ans à l'Arvor désormais. On avait commencé avec un cycle autour du vélo, on était encore rue d'Entrain, après on a fait la gare, l'été dernier, c'était autour du motif de la police, et puis là on s'intéresse au motif de la plage. Et oui, l'idée, comme tu l'as dit, c'est effectivement de proposer une programmation la plus éclectique possible, de prendre vraiment un motif et puis d'essayer d'articuler autour de ce motif-là, d'aller chercher des films qui sont tous très très différents les uns d'entre eux. Alors évidemment, on ouvre toujours avec une proposition que je qualifierais un peu de majoritaire, quelque chose d'assez séduisant, et Point Break, on est vraiment là-dedans. C'est pas pour débiner le film, c'est un film absolument super, mais l'idée c'est aussi d'aller attiser la curiosité des spectateurs un petit peu notre cheval de bataille à l'Arvor, c'est de favoriser le cinéma dans toute sa diversité. Donc nous on dit que voilà, Catherine Bigelow, ça peut très bien dialoguer avec Romer, avec Guy Roddy, avec David Lean, avec Agnès Varda. Tous ces films-là peuvent cohabiter ensemble. Je pense que même c'est presque l'idée aussi d'aller un peu contre les modes de consommation culturelle actuelle qui sont fondés un peu sur les algorithmes. Et l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah toi, t'as bien aimé Point Break, tu vas pouvoir regarder tous les films d'action des années 80-90 et tu peux passer ta vie maintenant à regarder que ces films-là si tu es abonné à une plateforme des SVOD. Ce qui dira, bah si t'aimes ça, bah tu vas regarder que ça toute ta vie. Nous, l'idée, c'est, on pense que voilà, on peut voir des films extrêmement divers. Donc c'est vraiment l'idée, voilà, de passer de Point Break aux Algues Vertes en avant-première. C'est notre film contemporain. Et puis d'aller directement sur, bah, Tabou de Murnau et de Flaherty, qui est un film sûr qui se passe à Bora Bora, qui est le dernier film de Murnau avant qu'il meure, un des derniers films de Flaherty, qui est aussi un des grands noms du cinéma muet, qui a fait Nanook l'Esquimau. Et c'est un film absolument somptueux, un film muet mais qui date de 2 ou 3 ans après l'arrivée du parlant, mais Murnau aimant tellement le cinéma muet, il fait ce film là c'est un film que j'encourage vraiment. On sait qu'il y aura un peu moins de monde qu'à Point Break, mais j'encourage vraiment les spectateurs et spectatrices à aller le voir, parce que c'est vraiment somptueux, c'est un film vraiment d'une sensualité incroyable. Et voilà, on va aller dans plein d'esthétiques très différentes, et c'est vraiment passer des films qu'on aime et qui sont qui sont parfois qu'on a du mal des fois à voir sur grand écran. C'est aussi le cas de Point Break, on pouvait pas le voir depuis des années sur grand écran, Point Break. Donc moi je suis très content de pouvoir le revoir. Mais La fille de Ryan par exemple de David Lean, qui va avoir lieu en juillet également, c'est un film effectivement qui peut faire peur ceux qui ne le connaissent pas, parce que ça dure plus de 3 heures, mais c'est un film qui est pareil d'une sensualité folle, c'est d'une beauté plastique hallucinante. On n'a jamais vu des plages filmées comme ça. Ça va être un régal de voir ça dans la grande salle de l'Arvor. Je pense que c'est tous ceux que je connais qui ont eu la chance de le voir sur grand écran, sur ces rares séances qu'il y a pu avoir ces dernières années, c'est vraiment des expériences absolument inoubliables et dont on voit maintenant l'importance qu'elle a pu avoir sur l'histoire du cinéma chez des cinéastes comme Spielberg, Friedkin, et qui ont tous été marqués à vif par ce film et les autres films de David Lean, et on voit un peu tout ça. Pour la boutade, on va pas dérouler tous les films, mais on termine avec une plage un petit peu moins glamour, ce qu'on termine sur Il faut sauver
le Soldat Ryan. Moi, je veux dire, j'ai monté ce cycle-là uniquement pour pouvoir faire cette blague-là. Donc voilà, Vamos a la Playa. Et on finit en Normandie, à Omaha Beach.
Vous aurez la possibilité de remporter des places pour ces deux cycles à voir à l'Arvor cet été en juillet et en août. Plouf, on est plutôt du côté de ces films jeunesse, mais à partir de 8 ans. Mais bon, parfois c'est un petit peu pour...
C'est de 7 à 107 ans.
Plus âgés. Et puis, écran total, Vamos a la Playa, jusqu'à sauver le continent à la fin de l'été. Bravo, bravo. Merci à vous deux, Eric et Antonin, d'être passés encore une fois pour cette séance Un fauteuil pour deux. On termine avec un extrait de ce film qui a été tourné pas très très loin, du côté de Dinard. Il y en a 4 des contes de chez Monsieur Romer, et Romer a sorti l'hiver, l'automne, le printemps, et bien sûr c'est en été que Melville Poupeau essaye de draguer un peu tout ce qui bouge, et puis ça marche pas toujours aussi bien qu'il croyait. Très très léger ce film, et très profond quand même.
Oui, c'est un film extraordinaire, hein. Moi que j'avais détesté à l'époque, ce venant de cette région là, je trouvais ça nul, mais en fait j'encourage vraiment les gens qui se croient allergiques à Romer à aller voir ça. Moi au fur et à mesure que je le vois, je le redécouvre, c'est vraiment un film d'une fraîcheur incroyable, quoi.
Cinéma arvor.fr pour les horaires des séances, et puis canalb.fr à partir de ce jour là directement pour remporter des places pour ces deux cycles. À bientôt, messieurs.
Merci. Ciao. Yann, à bientôt.
Je me suis mise à détester le midi. J'avais envie de fraîcheur, de brume, de sable mouillé. Ma mère sans marée, c'est triste. Quand est-ce qu'on va à Ouessant ?
Quand tu veux. Demain.
Tu plaisantes, je viens à peine d'arriver.
Avant lundi en tout cas, après c'est plus possible, c'est trop tard.
Tu sais ce que j'ai trouvé là-bas en Provence ? Je dormais dans une chambre où il y avait un tas de vieux bouquins. Des Jules Verne, des romans d'aventure. Je suis tombée sur une histoire qui se passe à Ouessant. C'est raconté par un gamin dont l'oncle est ramasseur d'épaves.
Le secret des eaux, dans la bibliothèque verte.
Ah, tu connais ?
Et comment ça a été mon livre de chevet ? Je le sais presque par cœur. Je peux te décrire tous les personnages. Le père Mingam avec son chapeau melon, le capitaine Prigent le parrain, Corsène, le Louarn, Marinaour...
C'est pas enfantin. C'est le prix Goncourt.
Non, pas le livre, l'auteur, André Savignon. Mais pour un autre bouquin, Les filles de la pluie. Ça se passe aussi à Ouessant, mais c'est pas du tout pour les enfants, c'est très noir, très déprimant. Sur la condition des Iliennes. Je le passerai.
Oh oui, il faut absolument qu'on aille là-bas.
Je vous rappelle que des places vous attendent pour les films proposés dans le cadre de ces deux cycles estivaux, Vamos a la Playa et Plouf. Allez faire un tour sur canalb.fr. On poursuit avec une interview art plastique maintenant, et l'artiste Clarisse Calvo-Pinsol l'a retrouvée jusqu'au 30 juillet au Théâtre du Vieux Saint-Étienne dans le cadre de l'exposition collective Muable. Si Georges Perec disait « je me souviens », Clarisse Calvo-Pinsol, elle nous le dit en grec peut-être. Est-ce que c'est ça vraiment, ou est-ce que c'est aussi simple que ça ? Enoé, une œuvre exposée au Théâtre du Saint-Étienne du 23 juin jusqu'au 30 juillet dans le cadre de l'exposition Muable, exposition collective portée par Electronica. Alors, est-ce que c'est aussi simple que ça, Clarisse ? Est-ce qu'il s'agit de se souvenir quand on est devant l'œuvre ?
Il s'agit... de se reconnecter avec soi-même, avec ses écosystèmes internes, et peut-être d'avoir des souvenirs qui ressurgissent, ou en tout cas de voir à quoi ça peut faire écho à l'intérieur de nous. Noé, c'est une installation, enfin c'est une réflexion en fait, donc sur le souvenir, la mémoire, et en particulier sur la mémoire traumatique, et sur le fait que quand on vit des chocs émotionnels, on peut perdre des souvenirs parce qu'il y a des déconnexions dans le cerveau qui s'opèrent entre deux parties du cerveau qui sont l'amygdale et l'hippocampe. Et du coup, cette déconnexion neuronale peut entraîner donc une perte partielle ou totale de la mémoire, ou bien le fait de vivre en boucle un traumatisme pendant une certaine période. Et du coup, moi, je me suis intéressée à ça, et je me suis intéressée parce que j'ai commencé à faire une thérapie qui s'appelle la thérapie EMDR, qui utilisait justement le son pour recréer des connexions entre la partie droite et la partie gauche du cerveau avec des sons bialternés. Et du coup, je me suis intéressée à savoir est-ce que certains sons pourraient recréer des connexions neuronales pour potentiellement venir aider à soigner des chocs émotionnels, des traumatismes. Et j'ai échangé avec un neuroscientifique pour savoir qui axe ses recherches là-dessus. Et pour savoir est-ce que eux dans leurs recherches ils utilisent, enfin est-ce que ça marche, est-ce qu'ils ont exploré ça. Et donc on a échangé là-dessus et il m'a dit voilà certains paramètres, certains sons, certains effets qui sont connus pour potentiellement recréer des connexions neuronales. Donc c'est ce que j'ai utilisé là dans la composition. Et donc ce qu'on voit dans Unway, c'est donc il y a 5 sculptures en verre. 2 centrales qui sont suspendues, qui représentent l'amygdale et l'hippocampe, et 3 sphères autour. Et en fait, toutes les sculptures sont interconnectées. Et il y a un système d'eau, en fait, il y a un bac à eau, et il y a une pompe à eau qui envoie de l'eau dans une des sculptures et qui diffuse l'eau dans toutes les autres. Et c'est un circuit fermé, en fait, et donc voilà, c'est en boucle infinie. Et donc, c'est une sorte de machine à souvenirs, en fait, un peu fictionnelle et poétique, et en même temps inspirée d'imagerie de science-fiction, cette espèce de casque qu'on met sur la tête, de cerveau, où les choses se reconnectent entre elles. Et donc, voilà, il y a une composition sonore aussi qui est diffusée sur 4 enceintes et qui est spatialisée, donc avec un son qui tourne. C'est un peu l'idée aussi de quand on rentre dans l'espace, d'aller à l'intérieur d'un corps humain, quelque chose de très organique.
Cette méthode thérapeutique EMDR de désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, cette méthode-là, on ne va pas, nous qui allons voir Unway, avoir des retours dans le cerveau, comme ça, des retours dans le passé, des souvenirs qui vont revenir, qui vont affluer à nouveau. Ça ne va pas le faire vraiment.
Non, ça ne va pas le faire vraiment. Enfin, après, le cerveau, c'est une sorte de disque dur qui cherche constamment à se souvenir et à faire des corrélations avec ce qu'il voit ou ce qu'il entend ou ce qu'il sent. Donc en fait, peut-être en entendant un type de son, on va dire « Ah, ça me fait penser à ça ». Et voilà, l'idée, c'est vraiment plutôt d'essayer d'entrer dans un espèce d'état méditatif aussi et d'avoir quelque chose d'immersif et de surtout se connecter à soi-même, en fait.
Concernant la bande-son, on entend quelques extraits comme ça dans cette discussion avec vous. Elle vient de quel type de collectage de sons ? Il y a du field recording, ils viennent d'où ces sons-là ?
C'est beaucoup des field recording en effet. J'enregistre beaucoup justement aussi pour me souvenir un peu des endroits que je visite ou des choses que j'entends, des choses que je vois. Je préfère enregistrer des sons plutôt que prendre des photos ou filmer. Et j'ai une grosse bibliothèque de sons que j'ai accumulée depuis longtemps. Et donc beaucoup de sons utilisés là font part de cette bibliothèque sonore. Et je les retravaille en fait via des logiciels. C'est vraiment l'idée de venir sculpter ces sons en fait pour leur donner une forme et un mouvement. Et après c'est aussi la spatialisation qui va vraiment recréer ce mouvement de sons qui tournent, qui nous traverse en fait et qui vient aussi traverser les sculptures.
Unway, ça arrive à quel moment de votre parcours d'artiste ?
J'ai créé cette pièce l'année dernière. Enfin, elle a été présentée pour la première fois l'an passé à Paris, à La Pop. Et c'était quand même des recherches que je faisais depuis longtemps. Mais là, j'ai pu avoir l'opportunité de la produire. Mais en tout cas, ça a vraiment commencé à partir du moment où j'ai moi-même fait cette thérapie EMDR, en fait. Où j'ai suivi ça, donc c'était il y a 6 ans à peu près que ces questionnements sont apparus dans ma pratique en fait.
Toutes les œuvres qu'on peut voir de Clarisse Calvo-Pinsol, elles sont sonores, visuelles et introspectives comme ça ?
Oui, quand même, ouais. Ouais, c'est, en tout cas, il y a toujours un rapport avec le son et toujours des pièces qui sont immersives et toujours en lien avec le mouvement et l'organique aussi. Ouais.
Est-ce que lors des expositions où a été présenté Noé, certains spectateurs, fans de votre travail sont venus vous voir et vous remercier de manière particulière autour du travail sur le son ?
Oui, bah, j'ai eu des retours positifs. J'ai même fait des ateliers avec des enfants, en fait, la première fois que j'ai montré la pièce, et c'était hyper intéressant, en fait, de voir aussi à quoi ça leur faisait penser, de voir eux la manière d'aborder le souvenir et la mémoire. Donc, j'ai eu des échanges quand même intéressants, même avec d'autres personnes. Mais c'est que la deuxième fois que je présente l'installation, donc du coup.
Une œuvre toute jeune, on le disait, il a fallu du temps, j'imagine, pour les construire, ces formes, ces sortes de globules, de parties du cerveau. Ils ont été créés avec qui ?
D'abord, ça a été modélisé en 3D, et ensuite, j'ai travaillé avec un souffleur de verre, qui a un atelier qui s'appelle l'atelier Gamil en France, pas loin de Paris, et avec qui c'est lui qui a soufflé les pièces. Je suis allée là-bas sur place pendant 2 jours en fait pour d'abord faire des prototypes et pour après faire les pièces qui sont présentées ici. Et donc voilà, c'est surtout avec ça. Et après moi j'ai conçu tout le reste quoi.
Noé est présenté dans le cadre de Muable, je le disais tout à l'heure, une exposition collective qui est supposée nous donner un regard sur la création émergente belge. Vous avez quel regard, vous, sur cette création-là, la création belge ? Vous vivez à Bruxelles ?
Oui, je vis à Bruxelles. Ben, je pense qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses à Bruxelles, en fait. Il y a vraiment un gros réseau et beaucoup de connexions entre les artistes, beaucoup autour de pratiques sonores, des arts numériques aussi. Et c'est hyper stimulant, en fait. Il y a tout le temps de nouvelles rencontres, beaucoup de passages, beaucoup de projets, de lieux aussi. Et donc, c'est chouette.
Est-ce qu'une exposition collective comme ça, ça peut faire naître des envies de collaboration avec les autres artistes présentés, ou la rencontre a été trop courte pour que ce genre d'idée ait pu germer ?
Moi je suis toujours ouverte aux collaborations, donc il y a Vika avec qui on a déjà travaillé ensemble, on était au Beaux-Arts ensemble, donc on se connaît depuis longtemps, et Homme, je les rencontre à peine, mais je trouve hyper intéressant leur pratique, donc à voir, pourquoi pas.
On n'aura pas de mots donnés par Homme, parce qu'ils étaient présents juste le jour de l'inauguration de l'exposition. C'est une organisation de production, de recherche et d'enseignement arts-sciences basée à Bruxelles. Ce serait possible d'imaginer des travaux avec eux ?
J'aimerais bien, ouais. On verra ce qui... On verra. On s'est dit qu'on allait se revoir. En plus, eux ont leur bureau juste à côté de là où j'habite. Donc, on s'est dit... puis même, on s'est super bien entendu. Donc, on a envie de se revoir.
Je vous encourage, moi, à venir voir et vous perdre, peut-être, dans vos souvenirs ou dans ceux fabriqués par Clarisse Calvo-Pinsol. Parce que, finalement, il est question de souvenirs... qui ne sont pas des vrais souvenirs, peut-être, là, dans cette œuvre. Mais il y a quand même... Est-ce qu'il y a quand même une volonté thérapeutique dans l'œuvre Noé ou finalement ça n'aura pas ce rôle-là chez les spectateurs ?
Je pense qu'après c'est propre à chaque personne de comment la personne reçoit en fait ce qu'elle est en train de voir et d'entendre, mais si ça peut aider ou si ça peut apaiser ou juste faire surgir des émotions le temps d'un moment, c'est aussi le but quoi. Et en tout cas créer un... Je sais pas, l'art pour moi c'est vraiment ça, venir créer des nouveaux mondes aussi dans lesquels on vient se perdre.
Je parlais avec Clarisse Calvo-Pinsol à propos de l'œuvre Noé à retrouver jusqu'au 30 juillet au Théâtre du Vieux-Saint-Étienne dans le cadre de l'exposition collective Muable proposée par l'association Electronica.
Allez, on lit. Allez, on lit les chroniques littérature jeunesse par Soizig Le Bail sur Canal B.
Dans Crème de la Crème, le mercredi, et puis aussi le jeudi, oui, je vous rappelle que l'émission est rediffusée le lendemain de sa première diffusion, eh bien on retrouve Soizig Le Bail. Bonjour Soizig.
Bonjour Yann.
Pour nous parler bouquins aujourd'hui, c'est dans la rubrique Allez, on lit, c'est plutôt jeune public, mais allez savoir qui lit quoi finalement. Eh bien tu nous parleras de Larmes et d'écume par Stéphane Michaka aux éditions PKJ, et puis c'est la dernière chronique de la saison. On vous dira tout à l'heure comment Soizig va vous accompagner cet été dans l'émission de Boulevani. Mais je te laisse nous parler de ce roman de Larmes et d'écume.
Allez, un bon roman d'aventure pour terminer cette année et pour attendre les vacances. Oui, les romans d'aventure ne sont pas si fréquents dans les rayons des libraires où les littératures dites de l'imaginaire sont omniprésentes. Et pourtant, moi je trouve, les aventures maritimes sont autant de portes ouvertes à l'imagination, à la rêverie, à l'envie d'aventure. Dans ce roman, nous sommes à Londres en 1884 et Finch, qui a toujours rêvé d'être marin et de passer sa vie sur des mers inconnues, ne peut pas intégrer un équipage. Sa santé est trop fragile. Alors, il travaille dans une importante société d'assurance spécialisée dans les bateaux de commerce. Un gratte-papier, c'est pas passionnant, hein. Mais il gagne sa vie. Son collègue, Basil Huntley, lui, traque les fraudes à l'assurance, obsédé par les naufrages. Un jour, un vieux marin alcoolisé cherche à lui vendre un manuscrit qui relaterait les derniers moments de l'équipage de la goélette, la Marie Céleste. Cette dernière, ayant été retrouvée vide de ses occupants, voile déchirée, il y a près de 10 ans, non loin des côtes du Portugal. Le chargement intact. Le départ du bateau a semblé très précipité. Les marins ont laissé leurs pipes et les placards de la cuisine étaient encore pleins de nourriture. 10 ans plus tard, le mystère reste entier. Nulle trace de l'équipage commandé par le capitaine Briggs. Nulle trace de sa femme Sarah ni de son bébé Sophia. Mais sur les documents d'embarquement, nulle trace non plus de la présence d'Elsie. Celle-là même qui raconterait l'histoire dans son journal retrouvée intacte dans une bouteille rejetée par la mer. Et Basil Huntley est complètement bouleversé par cette trouvaille. Trop. Il ne doute pas du tout qu'elle est authentique. Le roman tricote alors l'histoire de ces armateurs peu scrupuleux qui ont fait fortune en armant les bateaux pour la traite négrière. 10 ans plus tard, ce commerce est interdit, mais pas oublié. Alors, roman d'aventure historique, enquête avec un clin d'œil à Conan Doyle que Fish va rencontrer. Amour contrarié, le roman met en scène des personnages au caractère solidement campé et la jeune Elsie n'a peur de rien pour embarquer quasi clandestinement sur un bateau et fuir ainsi son beau-père. Finch, ce jeune homme débrouillard et intrépide, Basil, qui n'a renoncé à rien pour retrouver son amour de jeunesse. Ce roman se lit d'une traite et nous embarque avec lui. L'auteur est aussi scénariste pour la télévision et ça se sent dans le livre, hein, il sait bien tricoter les histoires. Il a plein de cordes à son arc, critique de romans policiers, auteur de BD. Suivons cet auteur. Stéphane Michaka.
De Larmes et d'écume paru chez PKJ. Alors merci Soizig pour cette dernière chronique Allez on lit de la saison. On te retrouvera en septembre pour toujours nous donner envie de lire des romans jeunesse, des poches et aussi eh bien des romans dans la chronique bouquet garni, c'est-à-dire des nouveautés en fait on peut le dire. Et tu fais la part belle aussi à de nouvelles maisons d'édition et ça c'est très chouette. Mais cet été dans De Boulevani, tu laisses les romans dans le placard pour nous projeter des films, enfin nous parler cinéma en tout cas avec des invités que tu as triés sur le volet.
Alors j'ai eu envie, parce que j'aime le cinéma, j'ai eu envie de rencontrer des gens dont on ne parle jamais, les métiers invisibles du cinéma. Alors j'ai cherché et quand on cherche on trouve en fait. Et du coup j'ai rencontré un repéreur, cette personne qui cherche les décors. Moi, je trouve ça très intéressant. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais pas que c'était un métier. J'ai rencontré une productrice. Ça, on sait qui c'est, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. Et c'est une belle productrice, hein, qui habite Vannes. J'ai rencontré aussi une première assistante déco. Je dis ça, j'articule vraiment parce que ça semble extrêmement hiérarchisé dans ce milieu-là, la décoration de cinéma. J'ai rencontré une monteuse et j'ai rencontré un scénariste. Il me semble que voilà, le scénariste est au départ de tous les projets, puis qu'après tout s'articule, tous ils ont un amour indéfectible pour le cinéma, tous s'amusent en travaillant et tous ont la sensation d'être co-réalisateurs, co-créateurs. Voilà, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est, on les entend pas, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup les auteurs, les réalisateurs, mais tous ces gens-là qui travaillent dans l'ombre et sans lesquels les films ne se tourneraient pas, tous ces gens-là, on ne les entend pas et j'ai voulu leur donner la parole.
On retrouvera donc tous ces métiers inconnus et puis ceux qui les font dans une série en plusieurs épisodes pendant le mois de juillet dans l'émission de Boule Vanille, votre émission estivale sur Canal B. Donc ça vous donnera aussi envie d'aller retrouver le cinéma au meilleur du moment pour aller le voir. Je crois l'été c'est quand même idéal pour aller au cinéma parce qu'il fait un peu trop chaud alors que les salles sont climatisées. Puis on a quand même de belles salles ici à Rennes, notamment l'Arvor juste à côté, donc on le signale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Soisig. À bientôt donc pour cette série-là.
À bientôt et bel été.
Allez, on lit les chroniques littérature jeunesse par Soisig Le Bail sur Canal B.
Dans la chronique Allez, on lit de Soisig Le Bail, vous avez pu entendre en illustration musicale Odd Fellows Casino. On termine crème de la crème avec les Rennais de Tiki Paradise, extrait d'un album qu'ils avaient fait paraître en 2020, le très chouette Mysterious Safari of Tropical Melodies, un album peut-être pas, un 5 titres, un mini-album sur lequel on retrouvait cette excellente relecture du Quiet Village, un sommet de l'exotica américaine des années 50. On se retrouvera nous jeudi pour une nouvelle émission Crème de la Crème. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !